France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre sujet cette semaine, c'est l'horizon. Les représentations de l'horizon, notamment picturales, les affects qu'il génère, l'usage politique de ce mot. Et puis ce matin, nous explorons la notion d'horizon de sens, très utilisée dans la philosophie du XXe siècle. Oui, ils parlent d'horizon, ces philosophes qui analysent l'acte de percevoir des choses. Par exemple, ils remarquent que lorsqu'un cube nous apparaît, c'est toujours de manière incomplète, avec des faces cachées. Nous reconstruisons donc les parties cachées dans l'acte même de le percevoir. Eh bien, cette façon de toujours compléter ce que nous percevons pour comprendre ce dont il s'agit, un cube, une maison, un arbre, une période historique, par-delà les faces inévitablement cachées, ce geste intérieur que nous effectuons signifie que tout ce dont nous faisons l'expérience est placé dans un horizon qui donne sens aux choses appréhendées. Cet horizon-là, en vérité, est un enjeu très riche, car c'est le fait même de nous situer quelque part qui produit incessamment des horizons de sens pour comprendre ce qui nous arrive. Et finalement, cela pose le problème des limites de toute situation. Est-ce que l'historien demain, situé autrement par rapport à un événement, aura un autre horizon de sens que tous les acteurs qui ont vécu l'événement ? Certainement. Et dès lors, c'est vertigineux. Les horizons de sens pourraient bien faire bouger à l'infini l'appréhension de toute réalité historique. Ce sont notamment les philosophes Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty et Hans-Georg Gadamer qui vont nous occuper dans cet épisode. Nous allons essayer d'en parler aussi simplement que possible, malgré leur vocabulaire un peu souvent difficile, il faut bien le reconnaître. Bonjour Aurélien Dian.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie de l'Université de Lille et votre thèse, désormais publiée aux éditions du Septentrion, portait sur Husserl et l'horizon comme problème. Bonjour Guy Degnaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée Nelson Mandela à Nantes. Comprendre, interpréter, ces questions sont au centre de vos publications, souvent aux éditions Vrin, et vous éclaircirez pour nous en particulier ce matin la pensée de Gadamer. Enfin, bonjour Stéphane Christensen.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie esthétique à la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg. Avec vous, nous parlerons tout particulièrement de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, justement, commençons par lui. Voici une archive du 9 août 1948 sur la RTF.
Après la science et la peinture, la philosophie, elle aussi, et surtout la psychologie, semble s'aviser que nos rapports avec l'espace ne sont pas ceux d'un pur sujet désincarné avec un objet lointain, mais ceux d'un habitant de l'espace avec son milieu familier. Soit par exemple à comprendre cette fameuse illusion d'optique, étudiée déjà par Malebranche, et qui fait que la Lune, à son lever, quand elle est encore à l'horizon, nous paraît beaucoup plus grosse que lorsqu'elle atteint le zénith. Malebranche supposait ici que la perception humaine, par une sorte de raisonnement, surestime la grandeur de l'astre. Ce n'est pas ainsi que la plupart des psychologues d'aujourd'hui comprennent l'illusion de la Lune à l'horizon. C'est une propriété générale de notre champ de perception de comporter une remarquable constance des grandeurs apparentes dans le plan horizontal, alors qu'au contraire, elle diminue très vite avec la distance dans un plan vertical. Et cela sans doute, parce que le plan horizontal, pour nous, être terrestre, est celui où se font les déplacements vitaux, où se joue notre activité. À l'idée d'un espace homogène offert tout entier à une intelligence sans corps, se substitue l'idée d'un espace hétérogène, avec des directions privilégiées, qui sont en rapport avec nos particularités corporelles et avec notre situation d'être jeté dans le monde. Nous rencontrons ici pour la première fois cette idée que l'homme n'est pas un esprit et un corps, mais un esprit avec un corps.
Il y a des illusions d'optique, c'est ce que l'on croit entendre à première vue dans ce propos de Merleau-Ponty, juste après la guerre. C'est intéressant, hein, la radio accueille vraiment la philosophie française sur un mode quasi solennel, hein, il y a quelque chose du professeur en chair. Mais Stéphane Christensen, j'ai l'impression quand même que le problème ici soulevé n'est pas réductible à celui des illusions d'optique qui existent et qui sont normalement des cas particuliers. C'est autre chose, plus profondément, que signifie Merleau-Ponty.
Pardon, il parle des psychologues d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il s'agit là, en l'occurrence, des psychologues de la Gestalt, des psychologues de la forme, qui ont dégagé un certain nombre de lois de comment s'organise le champ perceptif. Dans ce sens-là, effectivement, il va contester le fait qu'on puisse même parler d'illusion, dans le sens qu'il suppose qu'il y aurait une perception vraie pour un sujet désincarné, pour un sujet purement rationnel. Mais il n'y a toujours que des points de vue dans lesquels les choses nous apparaissent d'une certaine façon, en fonction de la situation précisément du corps dans l'espace. Et ça, c'est une des originalités d'ailleurs de Merleau-Ponty, d'être à la réception de ce courant de la psychologie de la première moitié du XXe siècle, de la psychologie de la Gestalt, qui a vraiment travaillé sur ces lois selon lesquelles s'organise le champ perceptif.
La psychologie de la Gestalt. Bon, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Gestalt, ça veut dire, donc, vous diriez forme.
Oui, ça a été traduit en français par psychologie de la forme. Forme ou structure, alors, c'est égal. Oui.
C'est vrai que c'est pas très facile de comprendre ce que ça veut dire. D'abord parce que c'est pas sûr que ce soit la psychologie.
La psychologie de la perception, ouais, techniquement.
Et quelle différence faites-vous, tout simplement, avec le courant qui a été fondé véritablement par Edmund Husserl en Allemagne, dans les dernières années du 19e et au début du 20e siècle, qu'on appelle la phénoménologie. Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît. Donc je sais bien que je remplace un gros mot par un autre gros mot, mais la phénoménologie, c'est un courant, voilà, dans lequel Merleau-Ponty s'inscrit. Pourquoi dites-vous davantage psychologie du Gestalt?
Oui, ça c'était juste pour expliquer à quoi Merleau-Ponty faisait référence et puis pour rebondir sur votre mention de l'illusion d'optique, non? Pour contester l'idée que c'est une illusion. C'est pas une illusion, c'est juste la façon dont les choses nous apparaissent. Après, la différence entre la psychologie gestaltiste et la phénoménologie, c'est que ce qui intéresse les gestaltistes et Merleau-Ponty après eux, c'est d'étudier le champ perceptif en fonction de comment des figures se détachent sur des fonds. Et pas d'abord de voir tel ou tel type d'objet. Alors que Husserl, avant, c'est parallèle à la psychologie de la Gestalt, historiquement, Husserl cherche à montrer comment différents types d'objets nous apparaissent selon leurs différentes propriétés.
Tout en affirmant qu'il veut toucher les choses mêmes, selon son expression.
Ça, les choses elles-mêmes, oui.
Alors Aurélien Dion, spécialiste de Husserl et de l'horizon, je vous laisse la parole pour nous expliquer quel était le problème pour Husserl, donc quelques décennies avant Merleau-Ponty, et cette fois-ci en Allemagne, et non pas en France.
Alors c'est vrai que c'est intéressant cette archive de Merleau-Ponty. On a raison de parler de la psychologie de la forme. C'est vrai qu'il y a aussi un arrière-plan phénoménologique. À partir du il y a des concepts qui sont signés d'une certaine façon. La signature, ça veut dire que quand on voit un concept, quand on le lit dans un texte, on se rend compte qu'il appartient à quelqu'un. Et en l'occurrence, pour le concept d'horizon, il appartient à Husserl d'une façon ou d'une autre. Donc toute la tradition post-husserlienne, quand elle utilise un certain nombre de concepts, que ce soit le concept de conscience, le concept d'intentionnalité, de corrélation, ou le concept d'horizon, fait référence de façon assez explicite à Husserl lui-même. Et donc à la phénoménologie de Husserl. La question de savoir ce que c'est que la phénoménologie de Husserl, et dans quelle mesure le concept d'horizon il joue un rôle prépondérant, c'est une question qui est évidemment très difficile. Je pense qu'on peut commencer en disant que pour Husserl, la phénoménologie est une science. Donc c'est finalement une proposition qui est assez étonnante, parce que quand il introduit cette idée de phénoménologie et cette idée que la phénoménologie est une science, c'est une façon de dire qu'il y a une nouvelle science qui apparaît dans le concert des sciences. Avant, il y avait la physique, il y avait la sociologie, il y avait la psychologie, il y avait l'économie, il y avait les mathématiques, etc.
Et est-ce que je peux me permettre de faire une incise pour des auditeurs qui auraient l'impression d'un philosophe un peu prétentieux allant sur le terrain scientifique? Il ne faut jamais oublier que Husserl était mathématicien. C'est un des rares philosophes, si on excepte la grande période classique du XVIIe, où tous, si je puis dire, connaissaient bien les sciences et les mathématiques. C'est un des rares philosophes contemporain qui est vraiment qualifié dans le domaine scientifique et notamment logico-mathématique.
Tout à fait. L'une de ses grandes œuvres s'appelle Les Recherches logiques. Mais c'est vrai que la phénoménologie a une prétention qui va bien au-delà de parler des mathématiques. En fait, comme on a commencé à en parler, à partir du moment où ce dont il est question dans la phénoménologie, en tout cas pour Husserl, c'est des phénomènes, et que le phénomène, c'est rien d'autre que la façon dont les objets nous apparaissent à une conscience, alors le domaine de la phénoménologie s'étend bien au-delà des nombres, des chiffres, etc., pour intégrer à la fois les objets de la perception, les choses physiques, les corps vivants, dont on a déjà commencé un petit peu à parler, les livres, les outils, les groupes sociaux. Et en fait, tout ça intéresse la phénoménologie de Husserl, dans la mesure où tout ça apparaît d'une certaine façon qui peut être étudiée, qui peut être décrite.
Alors on a parlé
et la phénoménologie, en fait, fait rien d'autre que étudier l'apparition des objets.
L'apparition des objets à notre corps,
tout à
pour
fait.
Ce qui est de
la perception.
De la perception. Mais pour Husserl, ce n'est pas seulement la perception sensible. Les choses nous apparaissent, pour elles, et donc on les touche elles-mêmes, dit-il, aussi bien dans la perception, malgré les déformations dont nous venons de commencer à parler, que les choses mathématiques.
Tout à fait.
Expliquez-moi ça.
Les objets nous apparaissent. Apparaître, c'est rien d'autre que la façon dont on a de se rapporter à ces objets, en fait. Qu'ils soient ou non les objets qu'on pense qu'ils sont, d'une certaine façon. Que ce soit des nombres, que ce soit des tables, que ce soit des livres, ils nous apparaissent en tant que nombre, en tant que table, en tant que livre. Et ce qui intéresse la phénoménologie, c'est justement de décrire la façon dont ils nous apparaissent telle qu'elle. Donc justement, le concept d'apparition, de phénomène, quand on parle d'une science des phénomènes ou d'une phénoménologie, justement... renvoie pas simplement à l'apparition sensible dont vous parlez. En même temps, évidemment, le plus facile quand on veut étudier, enfin quand on veut parler de la phénoménologie, c'est de prendre ces exemples-là. C'est la raison pour laquelle Husserl lui-même utilise beaucoup les exemples de la perception externe. Donc, notamment, on parlera du texte qui sera lu un peu plus tard dans l'émission, mais évidemment, l'exemple le plus parlant pour tout le monde. C'est la perception de la table qui est en face
de moi. Et de la lune qui est vue de manière déformée. Mais ce n'est pas une pure illusion à corriger, c'est autre chose. Même pour Husserl, nos déformations ordinaires dans le domaine sensible ne sont pas qualifiables uniquement d'illusions ou d'erreurs. Alors comment faut-il en parler ?
Bien sûr, mais justement, on en parle en faisant de la phénoménologie, en décrivant la façon dont on en vient à percevoir quelque chose, ou à percevoir quelque chose comme étant une illusion, ou à percevoir quelque chose comme étant une hallucination. Mais précisément, tout ça apparaît comme une chose perceptive, comme une perception, une chose perceptive illusoire, comme une chose perceptive hallucinée. Tout ça est gouverné par un ensemble de règles, qui sont les règles de l'apparition de ces objets, et que la phénoménologie a précisément pour tâche d'examiner.
Guy Degnaud, vous connaissez l'ensemble de cette tradition dite phénoménologique. Nous parlerons plus tard de Hans-Georg Gadamer, qui arrive un peu après. Les auteurs dont nous venons de parler, Merleau-Ponty, ou en même temps, à peu près en même temps que Merleau-Ponty, mais après Husserl, ça c'est sûr. Donc il faut revenir à Husserl pour comprendre ce qui se passe. Pensez-vous que l'enjeu de la perception sensible, donc du corps, intéresse tout le monde autant dans cette tradition, ou bien c'est quelque chose qui est tout de même spécifique à Merleau-Ponty de revenir tout le temps à ce problème du corps et de la perception sensible, et les autres, singulièrement Husserl, ont une vision beaucoup plus large du problème de la perception?
Alors je pense que chez Gadamer par exemple, la notion de corps revient, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que l'herméneutique, donc l'art de...
Alors attendez, non, il y a trop de mots. Donc on a fait le gestalt, propose de le laisser légèrement de côté. On a évoqué la phénoménologie. Donc maintenant, je suis vraiment navrée, mais il faut que vous expliquiez ce terrible mot qui s'appelle l'herméneutique.
Alors l'herméneutique, c'est une longue histoire, et l'herméneutique renvoie tout d'abord à l'art de la compréhension et de l'interprétation des textes passés. Alors, en Allemagne, il y a une très longue tradition qui commence avec Schleiermacher, qui continue avec Diltay. Donc Diltay, qui est un auteur très important à la fois pour Husserl, pour Heidegger, qui a beaucoup influencé Gadamer. Et Gadamer, d'ailleurs, reprend toute cette tradition-là. Alors, cela dit, il y a une modification avec Heidegger, puisque Heidegger, qui est un élève de Husserl, va modifier le sens de la phénoménologie, alors pour le dire simplement, en disant que le rapport premier au monde ne relève pas de la perception, mais il relève de la compréhension. Et donc, être au monde, c'est déjà avoir compris des choses. Alors, comprendre, ça signifie quoi? Le mot français le dit très très bien, comprendre, c'est prendre ensemble. Alors, être au monde, hein, nous, on est dans ce studio, on perçoit des objets, et le fait de se servir des objets témoigne déjà d'une compréhension, et la compréhension consiste dans la capacité à faire des relations, à relier tous les différents objets dans le fait même de les utiliser.
Mais qui a dit le contraire? En quoi Heidegger a-t-il installé une coupure sur ce point? Puisque nous allons d'ailleurs le voir, la perception d'un cube pour Husserl déjà, c'est comprendre des choses qui ne nous sont pas présentées immédiatement du cube, c'est-à-dire les faces cachées. Au fond, en quoi y a-t-il rupture? Alors, percevoir, c'est comprendre.
Alors, sauf que justement, Heidegger et l'herméneutique, alors l'herméneutique de Gadamer en l'occurrence, va insister sur le fait que ce sens, il est chargé historiquement. C'est-à-dire que si nous sommes dans un studio, nous comprenons tous les objets au sens où nous sommes capables de les manier, mais si l'on change de culture et qu'on a affaire à des objets qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les insérer dans un système de renvoi qui fait qu'ils pourront être utilisés.
Donc c'est moins le corps.
Si, c'est le corps, c'est le corps, mais le corps en
dans
tant
une culture,
dans une histoire, voilà. Et alors, j'entends tout à l'heure, on entendait Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui a souvent un excellent sens de la formule. Il parle du corps comme le metteur en scène de la perception. Donc le corps, il n'est pas tout à fait dans l'espace comme les autres objets, mais le corps, c'est ce à partir de quoi les choses se mettent en espace. Et ben, en herméneutique, c'est pareil. Hein, le corps. Nous sommes au monde, et être au monde, c'est pas simplement occuper une position de l'espace délimitée par l'épiderme. Être au monde, c'est appartenir à une histoire. Et voilà ce qu'il s'agit de comprendre, parce que cette histoire, comme le dira Gadamer, elle travaille en nous. Et du coup, ça va influer sur la façon dont nous recevons les choses. Voilà.
Donc on peut dire, si je vous entends bien, que tout le monde, dans ce courant, pardon, encore le gros mot juste pour le qualifier, voilà, phénoménologique, puis herméneutique, c'est comme ça que vous parlez, donc la question du percevoir et du comprendre, peut-on dire. Tout ce courant s'intéresse au corps, évidemment, il n'y a sans doute pas de cerveau sans corps, enfin c'est presque une évidence, à la perception sensible, à la perception de réalité intelligible, comme les logiques, les maths, et chacun a sa touche singulière, et notamment le sujet qui perçoit tout cela est vraiment mis dans une histoire et une culture, et c'est chez Gadamer que ce point devient absolument premier, central. Voilà. Est-ce que ça vous va?
Oui, parce que
tentative de simplifier le
Gadamer, lui, son objet, ce sont les objets culturels. Donc c'est aussi son point de départ.
Donc le fait que nous voyons toujours une époque à partir de la nôtre.
Voilà, c'est ça. Alors il faut peut-être rappeler aussi que la phénoménologie, c'est aussi un concept de méthode. Donc je pense que ce qui relie tous les auteurs par-delà leurs différences.
Alors allez-y, expliquez-nous ça.
Alors c'est compliqué parce que je pense que la méthode, c'est ce que suggérait Aurélien tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit de comprendre comment les objets nous apparaissent. Et je crois que ça relie tous les auteurs par-delà leurs différences. Après, il y a des divergences sur la compréhension de, justement, être au monde, est-ce que c'est comprendre, est-ce que c'est percevoir, etc., etc. Ce qui est un problème difficile à résoudre, me semble-t-il. Mais il y a une méthode. Alors, la méthode, si on suit Husserl, par exemple, Husserl nous dit, il faut commencer par parler de la façon dont les objets nous apparaissent avant de parler de la façon dont le sujet s'y rapporte. Il y a des termes techniques pour dire ça, mais il faut d'abord décrire l'objet, et après, c'est à partir de la description de l'objet qu'on peut comprendre comment le sujet s'insère dans la façon dont l'objet se donne au sujet.
Alors justement, on va revenir au grand texte premier sur ce problème de l'horizon. Vous l'avez bien dit, Aurélien Dian, c'est Husserl qui emploie le mot d'horizon. Voici le paragraphe 19. D'une des méditations cartésiennes de Edmund Husserl, un texte de 1929, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Allons-y.
Chaque état de conscience possède un horizon, variant conformément à la modification de ses connexions avec d'autres états et avec ses propres phases d'écoulement. C'est un horizon intentionnel, dont le propre est de renvoyer à des potentialités de la conscience qui appartiennent à cet horizon même. Ainsi, par exemple, dans chaque perception extérieure, les côtés de l'objet qui sont réellement perçus renvoient aux côtés qui ne le sont pas encore et ne sont qu'anticipés dans l'attente, d'une façon non intuitive, comme aspect à venir dans la perception. De plus, la perception possède des horizons qui embrassent d'autres possibilités perceptives. J'entends les possibilités que nous pourrions avoir si, activement, nous donnions au cours de la perception une autre direction. Si, par exemple, au lieu de tourner les yeux de cette manière, nous les tournions autrement, si nous faisions un pas en avant ou sur le côté, et ainsi de suite. Dans le souvenir correspondant, nous retrouvons toutes ces variations en une certaine modification. Ainsi, j'ai conscience que j'eusse pu, alors, percevoir d'autres côtés que ceux que j'ai vus en fait, si, évidemment, j'avais autrement dirigé mon activité perceptive.
Nous parlons de l'horizon toute la semaine, et aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros morceau de la philosophie du XXe siècle, la notion d'horizon, de sens, d'horizon intentionnel, lorsque nous percevons des objets. Et je fais la promesse d'essayer de décortiquer autant que possible ces notions. Edmund Husserl, en 1929, nous dit, dans le texte qui vient d'être lu, qu'il y a pour chaque objet un horizon, et qu'il est différent, cet horizon, selon, je cite encore, la manière dont j'ai dirigé mon activité perceptive. Alors, Aurélien Dian, spécialiste de Edmund Husserl, expliquez-nous.
Ce texte, je l'ai choisi parce que, d'abord, il est compréhensible, relativement compréhensible par le commun des mortels, notamment parce qu'on y trouve des exemples. La deuxième chose que je voulais dire avant de répondre à votre question, c'est que ce texte aussi montre que par-delà les gros mots, la phénoménologie, la conscience, l'intentionnalité, tout l'appareil conceptuel de Husserl, à la fin des fins, quand on lit les textes de Husserl, on a affaire à ce type de description-là. Donc en fait, concrètement, c'est de ça dont il est question dans le travail de la phénoménologie de Husserl. C'est de décrire comment est-ce qu'on en vient à percevoir un objet perceptif. Comment j'en viens à percevoir cette table qui est là en face de moi, pour autant qu'elle apparaît en tant que... En tant que table. Ça, c'est les deux premières choses que je voulais dire pour commencer. Ensuite, je pense que c'est... En fait, on peut le formuler d'une façon assez simple. Je reprends l'exemple de la table. On a parlé un petit peu du corps et de la situation spatiale du corps qui détermine la façon qu'on a de percevoir les choses. Donc aujourd'hui, je suis assis sur cette chaise dans ce bureau. Je perçois la table qui est en face de moi. Et cette table, évidemment, elle m'apparaît à chaque fois par un de ses côtés. C'est-à-dire que je ne peux pas l'apercevoir par tous les côtés à la fois, ce qui est normal puisque mon corps est fixé dans l'espace. Si je veux voir les autres côtés de la table, il va falloir que je me lève et que je me déplace, que j'aille m'asseoir par exemple à la place de Guy. Et ça, c'est la première chose qu'il faut dire quand on parle de la perception externe d'une chose. Mais dans le même temps, à partir du moment où on l'aperçoit que d'un côté à la fois, il faut bien dire qu'on perçoit bien la table. Comment est-ce qu'on peut percevoir la table en tant que telle ? On la perçoit parce qu'en fait, on ne perçoit pas que ce côté. On perçoit aussi tous les autres côtés d'une certaine
Donc
façon.
Donc il ne nous est pas présenté, puisque je crois que c'est encore un autre mot, cher Husserl. Il nous est à présenter, ça veut dire qu'il ne nous est pas présenté immédiatement, mais nous le comprenons, nous savons qu'il est là. Nous ne voyons que la face d'un gobelet, mais nous savons que le gobelet est terminé de l'autre côté. Nous anticipons dans la perception ce que nous verrions si nous étions de l'autre côté. Et pourquoi ça, c'est un horizon ?
Nous percevons ce gobelet, nous le percevons en tant que gobelet parce que nous percevons plus que la face que je perçois proprement de ce gobelet, à laquelle correspondent des sensations, en fait, des sensations visuelles. Et c'est le cas parce qu'en fait, si je ne percevais pas plus que ça, je ne percevrais pas le gobelet. De la même manière que je ne pourrais pas percevoir une mélodie si en fait je percevais succinctement une note, puis une note, puis une note, puis une note. En fait, qu'est-ce que je fais quand je dis que je perçois une mélodie, quand je dis que je perçois le gobelet ? Ce que je dis, c'est que je l'aperçois à chaque fois la mélodie qu'une note à la fois, ou je perçois le gobelet qu'une phase du gobelet à la fois, mais je me rappelle des phases que j'ai vues précédemment et je suis déjà en train d'anticiper les phases de l'objet que je vais voir.
Et ça c'est l'horizon.
L'horizon, c'est tout ce qui est, et c'est pour ça que juste et ensuite et ensuite je vous laisse parler. L'autre terme, et c'est pour ça que je pense que ça va parler aux auditeurs, l'autre terme que Husserl utilise pour parler de l'horizon, c'est celui de halo, Qu'est-ce que c'est qu'un halo? C'est quelque chose qui...
Halo, H-A-L-O.
H-A-L-O. Hein, c'est quelque chose qui, précisément, nous entoure. D'une certaine façon, je fais un peu le lien avec ce que Guy dira tout à l'heure, hein, l'horizon, c'est, on peut le voir à la fois comme une limite, et c'est plutôt la position de Gadamer, hein, c'est la limite qui détermine la façon qu'on a de comprendre en fonction de notre position historique. Pour Husserl, l'horizon, c'est plutôt quelque chose qui... C'est l'horizon qui nous... c'est l'ouverture. Quand on dit que j'ai besoin d'un horizon, on veut dire j'ai besoin d'une ouverture. Mais là, c'est un peu ça. C'est tout ce qui entoure la perception vraiment du côté de ce gobelet ou du côté de la table, et sans lequel, en fait, on ne pourrait pas percevoir de gobelet, on ne pourrait pas percevoir de mélodie, on ne pourrait pas percevoir du tout, en fait.
Voilà. Stéphane Christensen, vous vouliez intervenir.
Oui, c'était juste aller un peu abonder dans le même sens et peut-être juste préciser un petit peu l'idée que Husserl introduit d'un horizon intérieur de l'objet. Hein, c'est aussi un peu ce terme technique de horizon intérieur, horizon extérieur. L'horizon d'un objet comme un gobelet ou un cube ou n'importe quel objet perceptif, ça peut aussi être décrit comme simplement la limite entre la face qui est là actuellement visible quand je jette un œil dessus et les autres faces qui ne sont pas actuellement vues par moi. Mais donc cette limite-là, cette espèce de qui peut être une ligne ou qui peut prendre différentes formes selon de quel objet on parle, n'est-ce pas ? C'est aussi ce qui justement va faire que comment dire, faire que justement je m'attends à ce que ça soit d'une certaine façon plutôt que d'une autre. De
et
l'autre
pourquoi
côté.
Il dit intérieur, extérieur. Je trouve ça compliqué.
Alors,
franchement,
l'horizon intérieur parce que c'est l'horizon de l'objet lui-même, tout simple.
C'est-à-dire que la face du gobelet que je ne vois pas, ça c'est l'horizon intérieur
limite,
de l'objet.
La limite entre ce que je vois du gobelet et ce que je ne vois pas du gobelet, ça c'est l'horizon dit intérieur.
Et l'horizon
extérieur, c'est tout le contexte dans lequel s'insère le gobelet. Le contexte de production, l'usage, enfin ce dont parlait Guy tout à l'heure.
Donc toute la régie que je vois derrière ce studio.
Voilà, on pourrait dire le contexte autour. En quelque sorte, c'est comme ça, il distingue ces deux différentes manières dont deux notions différentes de l'horizon. Et ce qui est vraiment, je trouve fascinant, ce que disait justement aussi Aurélien, pardon, je rajoute juste ça, c'est justement ça introduit l'aspect temporel, l'idée de la perception comme un processus temporel.
Pourquoi ?
Bah parce que justement, c'est par l'horizon que je vais être appelé à explorer les 10 autres faces, et donc à faire le tour de, et donc ça inscrit la perception pas juste en un acte ponctuel, mais en un processus qui se déroule dans le temps.
C'est-à-dire que je sais que je peux tourner autour du gobelet, et je ne peux le faire que dans le temps, c'est ça ?
Nécessairement, ça implique la dimension temporelle. Ouais.
C'est troublant ce que vous dites. Justement, il y a un côté très géographique. C'est vraiment la question de l'espace qui est spontanément posée par les exemples qu'on vient de dire.
Qui est impliqué.
Et ouais. Gadamer, vers lequel nous irons, lui va vraiment poser le problème du temps, de la temporalité, de manière première. Mais ça ne paraît pas évident. On se dit... Ou, comme on pourrait dire, d'autres philosophes du XXe siècle s'intéressent au langage, plus qu'à la perception sensible. Voyez, mais en vérité, la phénoménologie touche tous ces aspects. C'est ça que vous êtes en train de dire, Hans Christensen, c'est-à-dire la géographie de celui qui perçoit, la temporalité dans laquelle il s'inscrit, et sans doute aussi les mots qu'il emploie.
Certes, bah comme le suggérait Aurélien, on peut... faire une phénoménologie de toutes sortes de phénomènes. Puis le premier objectif de Husserl au départ des recherches logiques, c'était de faire ce qu'il appelait une ontologie régionale, c'est-à-dire de voir tous les différents types d'objets selon leur mode d'apparition. Ça peut être un objet mathématique, une institution politique, une valeur morale, une émotion, un objet perceptif. Vous voyez, toutes sortes de des choses qui sont radicalement différentes, mais qui composent les différents secteurs ou régions de l'être. Donc effectivement, on peut faire une phénoménologie de tout. Du langage, y compris aussi.
Alors, ouais. Qu'est-ce qu'a apporté Merleau-Ponty à cette réflexion ? Sa notion de corps, de chair, pourquoi ça change un tout petit peu la donne ? Écoutez ce texte non moins célèbre que celui de Husserl que nous avons entendu, ce texte de Merleau-Ponty. C'est un texte de 1964 qu'on trouve dans son livre « Le visible et l'invisible ».
Un certain rouge, c'est un fossile ramené du fond des mondes imaginaires. Si l'on faisait état de toutes ces participations, on s'apercevrait qu'une couleur nue, et en général invisible, n'est pas un morceau d'être absolument dur, insécable, offert tout nu à une vision qui ne pourrait être que totale ou nulle. mais plutôt une sorte de détroit entre des horizons extérieurs et des horizons intérieurs, toujours béants. Quelque chose qui vient toucher doucement et fait résonner à distance diverses régions du monde colorées ou visibles. Une certaine différenciation, une modulation éphémère de ce monde, moins couleur ou chose donc que différence entre des choses et des couleurs. Cristallisation momentanée de l'être coloré ou de la visibilité. Entre les couleurs et les visibles prétendus, on retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et qui, lui, n'est pas chose, mais possibilité, latence et chair des choses.
Stefan Christensen, quand nous percevons des couleurs, que se passe-t-il, selon Merleau-Ponty, dans ce texte ?
Quand nous percevons des couleurs, il se passe que nous sommes mis en mouvement.
Ah, je ne m'attendais pas à celle-là, quand même. Donc, voilà, j'avoue.
C'était aussi donc, une façon d'essayer que... de répondre à votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce que Merleau-Ponty amène à...
Oui.
À toute cette, à tout ce contexte. Une des façons, je pense, de répondre à cette question, ce serait de dire que Merleau-Ponty assimile la conscience avec le corps. C'est-à-dire, considère pas que, alors dans l'archive de 48 qu'on a entendu tout à l'heure, il dit on n'est pas un esprit et un corps, mais on est un esprit avec un corps. Plus tard, au cours des années 50, dans ces textes-là, il va de plus en plus loin et considère qu'il faut penser la conscience comme corps, c'est-à-dire comme une certaine organisation charnelle liée ensemble par son schéma corporel, c'est-à-dire une unité entre, qui explique la perception par la motricité de manière très concrète et vraiment très charnelle, quoi.
Mais puisque nous parlons de l'horizon, c'est notre série de cette semaine, c'est notre sujet de ce matin. Y a des horizons dans tous les actes de perception ordinaires. Est-ce qu'on peut dire que la matière, la chair des choses, comme il dit de manière très poétique d'ailleurs, est aussi l'horizon de tous nos actes de perception d'une couleur? On voit du rouge, mais en fait, on voit de la matière rouge. De la chair des choses, comme il dit, rouge. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'un peu infini, d'un peu... En vérité, pourquoi ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là aussi une pensée de l'horizon ?
Oui, je le pense clairement. À part le fait qu'effectivement, on entend le mot horizon extérieur et intérieur dans ce texte lui-même... Ce que je trouve assez génial ici, c'est qu'il y a à la fois effectivement un rouge, par l'exemple d'un rouge dans sa matérialité très concrète et très singulière, un certain rouge. On peut penser
au corail, enfin, qui est un faux rouge.
Voilà, le corail. On peut penser, je sais pas, là on est à France Culture, on peut le rouge de France Inter pour prendre les collègues.
Très bien, bon voilà, exemple.
Ou le rouge de la Révolution de 1917 et ainsi de suite. Le rouge du display digital qui est face à moi et ainsi de suite. Bref, donc il y a une matérialité de toujours incarnée de ce rouge là qui est face à moi. Et puis en même temps, c'est ce par quoi différents phénomènes sont en relation les uns avec les autres. Donc c'est ce qui peut les relier ensemble, ce qui fait qu'on peut les comparer, ce qui fait qu'on peut être renvoyé de l'un à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis le rouge, dans ce sens-là, c'est ce qui me met en mouvement. Parce que je suis un corps sensible, dans une certaine situation, face à justement certaines configurations sensibles qui soit m'attirent, me repoussent, etc. Donc il y a aussi immédiatement là, dans cette idée de chair, l'idée d'une corrélation pas seulement cognitive avec qu'est-ce que c'est que cette chose-là, comment je peux la décrire, mais aussi affective. Qu'est-ce qui fait que cette chose m'attire ou me repousse ?
Il y a quelque chose aussi au-delà des mots. Bon, ça, c'est un sujet difficile. C'est-à-dire que peut-être que c'est le phénoménologue qui a le moins confiance dans le langage. Il y a quelque chose au niveau du corps qui ne se dit pas, qui est par exemple les aspects affectifs de la perception. On ne peut peut-être pas tout restituer par les mots.
Alors ça, c'est une très grande question. C'était exactement à cette question que j'avais consacré ma thèse, à vrai dire, sur le passage de la perception au langage. Et en effet, il y a toujours quelque chose qui est perdu. Parce que la perception a toujours lieu dans une situation et c'est toujours le corps qui est en lien avec des figures sur des fonds. oui. Hein, avec des paysages, avec voilà, des choses qui bougent, qui sont aussi derrière lui, devant lui, etc. Ou devant elle. Et effectivement, le langage, lui, a tendance à situer les choses dans une structure avec des concepts ou des qualificatifs et donc à fixer tous les phénomènes comme des objets identiques à eux-mêmes, en quelque sorte, non ? Et effectivement, ça pose. On peut, je pense, lire toute la pensée, toute l'œuvre de Merleau-Ponty comme confronté à ce problème-là.
Donc en fait,
il a sans arrêt buté là-dessus jusqu'à la fin.
Le rouge n'est jamais le même, puisqu'il se donne sur des objets tous dissemblables. Donc il y a toujours un petit mensonge dans l'usage du mot rouge.
Il y a toujours, c'est jamais le même, mais c'est peut-être justement ça. Cette hétérogénéité qui fait précisément qu'il peut faire lien avec tous les autres rouges. Donc, on doit, selon Merleau-Ponty, on doit faire l'économie de, ou en tout cas, on doit laisser de côté l'idée qu'il y aurait un point de vue de nulle part qui mettrait tout le monde d'accord.
Guy Degnaud, alors, maintenant qu'on a un peu posé des éléments importants de cette tradition qui introduit la notion d'horizon dans le champ de la perception, nous avons un petit peu posé aussi le problème du langage, qui arrive ou n'arrive pas à restituer cette richesse de la perception et ses horizons, toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui sont là. Qu'est-ce que apporte Hans-Georg Gadamer, allemand, passionné d'histoire ? Qui est-il ? Quelle est sa... Vous parliez de méthode. Quelle est sa méthode ou sa démarche ou le problème central qui le meut en philosophie ?
Alors, son problème central, c'est d'éclairer ce qu'est la compréhension, et notamment la compréhension des textes passés, hein, donc des textes de ce qu'il appelle la tradition, donc des textes qui sont transmis. Mais il a aussi une ambition beaucoup plus vaste, puisque selon lui, enfin c'est en tout cas sa position, il dit que la compréhension donc concerne l'être au monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par conséquent, il y a aussi une dimension sociale, donc d'interaction entre les individus, et ça concerne aussi plusieurs phénomènes. La compréhension ne s'arrête pas simplement aux textes du passé, hein, les mathématiques, on les comprend, les œuvres d'art, on peut les comprendre, etc., etc. Donc c'est vraiment une caractéristique de l'homme dans le monde. Et ce qui, me semble-t-il, ce qui distingue Gadamer de la phénoménologie telle qu'on en a parlé jusqu'à présent, c'est que Gadamer va définir la compréhension comme une fusion des horizons. Alors si on parle de fusion des horizons, on est d'emblée, non pas, on est bien dans le rapport au monde, mais on est, s'il y a un horizon, s'il y a une situation sur laquelle se délimite un horizon, mais il y a aussi un autre horizon. Donc là, on est d'emblée dans l'altérité.
Ah là, je ne comprends pas.
Si on est, c'est-à-dire que...
Rien.
Si, je reprends. Oui. S'il y a une fusion des horizons, ça signifie qu'il y a deux points à partir d'où se délimitent deux horizons. Alors, par exemple, s'il s'agit de comprendre un texte passé, ce texte passé a été écrit par quelqu'un qui n'est pas moi. Par exemple, le texte de Platon, par exemple, quand je lis Platon, quand il a écrit son texte, il était dans une situation déterminée au sein duquel se délimitait son horizon. Et nous qui lisons Platon aujourd'hui, nous le lisons à partir d'un horizon. Donc là, il ne s'agit pas de rencontrer des choses, il s'agit de rencontrer d'autres, des objets culturels qui veulent nous dire quelque chose et qu'il s'agit de comprendre.
Et alors, pourquoi ça fusionne ?
Alors c'est ça.
Ça parce se complète, vous ça avez raison. Mêle, mais pourquoi mais, ça fusionne ?
C'est ça. Justement, la fusion des horizons, c'est une image, et c'est une image, vous avez raison, qui n'est pas franchement claire. Hein, puisque on peut se demander ce que ça veut dire que des horizons fusionnent, qu'est-ce que ça peut signifier. Alors, me semble-t-il, pour comprendre cela, il faut renvoyer à ce... C'est ce que fait Gadamer, hein, à interroger ce que signifie le sens d'un texte. Où est-ce qu'on trouve le sens d'un texte ? Alors naturellement, le sens d'un texte, on le trouve qu'en le lisant. Et de ce point de vue-là, on peut comparer ce qu'est un texte avec ce qu'est une œuvre d'art, notamment les œuvres d'art transitoires, par exemple le théâtre, oui. Ou alors la musique, qui ont besoin d'être représentées. Et naturellement, Mozart, par exemple, ou Molière, on les trouve que dans les représentations, que dans l'exécution musicale. Et par contre, alors, à chaque fois, c'est une représentation, par exemple, d'une pièce de théâtre de Molière, mais c'est une représentation de l'œuvre elle-même. Mais ce n'est qu'une représentation de l'œuvre. Et par conséquent, ça, c'est une nécessité structurelle. C'est-à-dire que l'œuvre même se donne que dans la représentation. Mais ce n'est qu'une représentation. Et c'est cette nécessité structurelle qui va faire que l'œuvre est ouverte à son histoire. Donc le sens se temporalise dans l'histoire. Platon, il est où ? Il est dans les lectures que l'histoire en a faites.
Oui, mais
Mozart, il est où ? Dans la façon dont on l'a interprété.
Vous croyez ? C'est-à-dire qu'on pourrait aussi dire... Vous savez bien qu'aujourd'hui, si on représente Molière, par exemple, qu'on a beaucoup représenté dans notre pays, on peut aussi ne pas être du tout d'accord avec une représentation.
Oui,
vous êtes d'accord qu'elle trahit beaucoup de choses.
Oui,
donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout cela s'accumule sur un mode quasi fusionnel, alors qu'en réalité, il y a des gens qui tranchent là-dedans.
Non, ça c'est un fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est un fait que les lectures, par exemple, de Platon dans l'histoire, sont différentes. C'est un fait que Mozart, il est joué de façon différente dans l'histoire. C'est un fait que Molière est.
Il y a des représentations qui ne sont pas. Ni Platon, ni Molière, il y en a dont on dit, voilà, c'est une trahison, dans l'horizon platonicien.
Là, vous posez une autre question qui, pour Gadamer, vient un peu plus tard, c'est-à-dire, c'est quoi le critère de la représentation ?
Oui, c'est quoi ?
Alors, ce que dit Gadamer, c'est que une représentation ou une interprétation juste, elle est juste quand elle disparaît. C'est-à-dire, quand on a l'impression que c'est la chose elle-même qui se présente. Parce que, de fait, Mozart, je ne peux le trouver que... quand j'écoute la musique de Mozart qui est jouée. Platon, je ne peux le trouver que quand je suis en train de lire Platon. Par conséquent, c'est une nécessité structurelle, une nécessité d'essence, comme dirait Husserl.
Et qu'est-ce qui disparaît ?
Ce qui disparaît, c'est justement cette médiation qui est... Si j'assiste à une représentation de Molière, par exemple, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça y est, Molière est là. Donc, la chose même se présente elle-même. Merleau-Ponty, encore une fois, il dit ça fort bien. J'ai une petite citation sous les yeux. Il dit ça dans je ne sais plus quel texte. En tout cas, il parle de l'œuvre d'art. Il dit « L'œuvre elle-même ouvre le champ d'où elle apparaît dans un autre jour. C'est elle qui se métamorphose et devient la suite. Les réinterprétations interminables dont elle est légitimement susceptible ne la changent qu'en elle-même. » Donc, il n'y a pas d'identité d'une œuvre ou même d'un texte en soi, mais l'identité se temporalise.
Mais ce qui disparaît, c'est parfois, dans certaines représentations de Molière,
C'est-à-dire que, quand, par exemple, imaginez une mauvaise représentation. Dans ces cas-là, on a l'impression qu'on ne voit que les acteurs. Et on ne voit plus la pièce.
C'est très juste,
voilà.
Oui.
Et donc, c'est ça, la fusion. Alors, je vais prendre un exemple aussi pour illustrer cela, et je l'emprunte délibérément, pas du tout... aux objets textuels.
C'est quand ça fusionne pas, justement.
Oui, voilà, ça fusionne pas, voilà. La fusion, c'est effectivement cette médiation. Alors, je suis tombé récemment sur un entretien entre Soulages et Jacques Le Goff, donc le médiéviste, à propos de l'abbatiale Sainte-Foy à Conques. Ça a été publié dans une petite plaquette, j'ai trouvé ça par hasard, et, donc c'est un dialogue entre tous les deux, et Jacques Le Goff se pose la question, donc il adresse à Soulages, de savoir comment une création artistique contemporaine peut s'insérer dans une œuvre d'art millénaire tout en lui étant fidèle et en apportant quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'il dit. Et il répond, hein, « Cette question se place au cœur de ma pratique de l'histoire ». Alors c'est tout à fait intéressant parce que il compare donc Soulages qui a mis ses vitraux tout à fait contemporains dans l'abbatiale Sainte-Foy à Conques, ça apporte quelque chose de nouveau à cet édifice millénaire et lui-même dit que sa pratique de l'histoire elle se fonde là-dessus. Donc ce qui veut dire que l'objet historique, même chose, il n'existe pas en soi. Hein. Le passé, dans la mesure où on le rencontre, il n'est pas indemne de ce qu'il était.
Je vous pose une question.
Et
là,
du coup, Jacques Le Goff finit par dire que il a une formule qui est extraordinaire. Il dit il y a une historicité de l'éternité. C'est-à-dire que effectivement, c'est très beau. Effectivement, on voit bien que le même se manifeste différemment dans le temps. Mais c'est toujours le même qui se manifeste littéralement dans le temps. Et je pense que, comme la citation de Merleau-Ponty le dit et celle de Jacques Le Goff, pour le texte, on peut dire la même chose. Hein, comme on peut le dire pour les représentations théâtrales ou musicales. Il y a une temporalisation. Donc, il n'y a pas d'objet en soi.
Il y a un horizon.
Alors,
c'est quoi l'horizon?
L'horizon, ça peut être... l'horizon est relatif à la situation dans laquelle les individus se trouvent. Alors, si on prend des textes, hein, on a Platon, par exemple, on a un lecteur qui lit Platon. Bon, chacun est dans une situation qui est précisément délimitée par un horizon. Voilà. Et la compréhension du texte va être la lecture, donc la confrontation entre ce qu'on peut appeler deux points de vue, d'accord ? Donc le point de vue de Platon, c'est pas forcément le mien, et de la confrontation, donc la rencontre entre ces deux points de vue, donc dans la lecture par exemple, va émerger quelque chose qui à la fois va libérer des potentialités qui étaient déjà dans le passé, en quelque sorte, qui me parlent, hein, Platon me parle, et du coup qui vont modifier aussi la façon dont moi j'appréhendais le monde. Donc c'est ça, fusion, il faut l'entendre au sens, le mot allemand d'ailleurs le dit, c'est au sens actif du terme, hein, c'est-à-dire que ça ne cesse de procéder.
Qu'est-ce qui est plus fidèle à l'horizon de Notre-Dame de Paris ? De faire la flèche ? Alors, de refaire la flèche
oui,
comme...
bonne question.
Comme elle l'était faite par Viollet-le-Duc, qui est une pièce de toute façon rapportée par rapport à la cathédrale tout à fait originelle, ou bien au contraire, de ne justement pas la répliquer. Qu'est-ce que vous
Alors,
en pensez ? Vous en avez pensé ?
Moi, j'en pense pas grand-chose. Enfin non, c'est pas vrai, mais je vais répondre à partir de ce que dirait Gadamer. Gadamer, il a une réponse qui est un peu, à mon avis, une façon... Enfin non, c'est pas vraiment une façon de se défiler, mais il dit que c'est le temps. Le temps nous permet de voir ce qui nous apporte vraiment quelque chose ou pas. Alors on dirait que c'est un critère un peu léger. On lui a reproché,
c'est
d'ailleurs.
C'est vous qui le dites, hein, moi je me permettrai
pas. Non, mais
pas.
Oui, tout à fait, c'est moi qui le dis, effectivement. Mais cela dit, c'est pas faux. Parce que, par exemple, si on renvoie à des expériences tout à fait banales aussi, on voit un film qui peut nous marquer fortement, ou on lit un livre qui nous marque fortement, et si on le relit après, voilà, ça tombe à plat. Et l'histoire, elle est faite, il y a des renaissances de la tour, c'est un peintre qui a été oublié, il est réapparu, on parle de Spinoza depuis quelque temps à propos de l'affect, il revient au goût du jour, etc., etc. Les auteurs disparaissent, reviennent, etc., etc. Et alors Nietzsche dit ça aussi fort bien, alors lui il le dit de façon provocatrice, il égrène tous les grands noms de l'Occident, hein, Brutus, César, Platon, Bouddha, etc., etc. Puis il dit, tous ces gens-là, j'étais déjà présent en eux, et ils mûrissent en moi. Et il a fallu attendre des siècles, dit-il, pour qu'enfin ils deviennent ce qu'ils sont. C'est ça que veut dire Gadamer, en quelque sorte. C'est que le passé, hein, il n'est jamais vraiment passé. Et comme le dit Gadamer encore une fois, le passé, il n'est pas... Enfin, il peut y avoir du passé, mais le passé, il travaille en nous. Hein, il travaille en nous. Alors, il travaille en nous de façon fusionnelle, justement, au sens où on est socialisé. Et dans la mesure où on est socialisé, on a intégré plein de choses de l'histoire qui fait que ça fusionne en nous. Sans même qu'on s'en aperçoive. Et ça, c'est ça la situation dans laquelle on se trouve, dont il faut prendre conscience, dira Gadamer, pour éviter de projeter sur l'objet qu'on veut comprendre nos propres préjugés.
Alors je vous propose d'avoir trois points de vue sur tout ce que vous dites. Ceux, bien sûr, de nos deux autres invités, Aurélien Dian et Stéphane Christensen. Mais juste avant, je vous propose d'écouter celui de Paul Ricoeur, qui est souvent clair dans sa manière d'expliquer des choses historiques, difficiles. Et vous me direz aussi si ça vous plaît, la manière dont il pose les problèmes qui viennent d'être évoqués. Écoutez, c'était en 1985 sur France Culture.
Notre présent historique, est fait de cet échange entre des anticipations. J'emploie l'expression d'un auteur allemand contemporain, Koselleck, qui parle d'horizon d'attente. C'est dans la mesure où nous avons un horizon d'attente qui nous projette vers un avenir personnel, collectif, de l'humanité entière, que nous pouvons avoir un rapport créatif avec des héritages du passé. Car le propre de cette projection vers le futur, orientée vers un horizon d'attente, c'est de délivrer rétrospectivement dans le passé des potentialités enfouies, des ressources empêchées, abolies, et par conséquent de déverrouiller en quelque sorte le passé. Il y a donc un choc en retour de nos attentes, c'est-à-dire ce que nous espérons et ce que nous craignons, sur notre mémoire, nos traditions et d'une façon générale, nos héritages.
Stéphane Christensen, vous avez envie de réagir à cette vision de l'histoire qui n'est pas sans rapport avec celle de Hans-Georg Gadamer qui nous a été expliquée juste avant par Guy Deniau.
Oui, très très intéressante aussi cette archive de Ricoeur. L'idée d'horizon d'attente je crois que Aurélien l'a aussi un peu exposé tout à l'heure avec l'horizon de l'objet, c'est-à-dire que l'horizon nous donne à attendre certains phénomènes plutôt que d'autres. Et ce qui est justement intéressant avec cette notion-là par rapport à l'art en général, c'est que ça donne une clé d'interprétation des œuvres d'art selon la manière dont précisément elles surprennent ou déjouent ou transforment, ou vous voyez, ces horizons d'attente dont elles organisent des surprises. Et ça c'est juste pour moi, d'un point de vue de la réflexion esthétique, c'est une clé qui est vraiment intéressante.
Très intéressant.
Cette idée d'attente et donc à partir de là de potentielles surprises aussi.
Aurélien Dian, et vous aurez le dernier mot.
Ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'aussi ça permet de bien montrer la différence entre l'approche plutôt scientifique, disons, la prétention scientifique de Husserl, qui consiste à dire, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit ce qui se passe objectivement quand on perçoit des objets, quand on lit des livres, oui, quand on regarde les étoiles. Et puis, une position gadamérienne qui est une position qui, même si elle a été exprimée, elle est vraiment très... Enfin, je veux dire, elle est subtilement proposée dans Vérité et Méthode, hein, l'œuvre majeure de Gadamer. En même temps, implique une forme de relativisme. C'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. D'une certaine façon, toute compréhension est une... je vais prendre une phrase qui est un peu la phrase de Gadamer. Comprendre, c'est comprendre autrement. En fait, c'est ça, la fusion des horizons. Ça veut dire que quand je comprends... on en discutera.
Non, on ne comprend pas le débat, je vous en supplie.
Mais comprendre, c'est comprendre autrement. Ça veut dire qu'on comprend toujours différemment. Et comprendre toujours différemment, ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais accès au bouquin qu'on lit en tant que tel, objectivement, tel qu'il est pour tout le monde. En fait, chacun ne peut comprendre que par rapport à la situation qui est la sienne et qui est déterminée par un horizon qui est l'horizon de l'histoire. Alors précisément, si on regarde par exemple Husserl, on a affaire tout au contraire à l'idée que ce qu'on doit faire, c'est précisément décrire objectivement ce qui se passe. Quand je perçois une table, je perçois la table subjectivement évidemment, mais en même temps, c'est la même table que vous et moi on perçoit, même si on la perçoit de côtés différents. Vous voyez, les trois mousquetaires, on le lit différemment, on y est tous affectés différemment, mais c'est le même livre qu'on lit. Et on est capable, en fait, de se mettre d'accord sur la signification de ce livre de façon intersubjective.
C'est comme un ça.
La Féline chante, mais vous ne le savez peut-être pas, c'est une philosophe. La Féline, c'est la philosophe Agnès Guéraud et elle chante La Ligne d'horizon en 2014. chanson terriblement adaptée à tout ce qui a été dit ce matin. Merci Aurélien Gian, Guy Degnaud, Stéphane Christensen, les références de vos travaux, les références de tout un tas de choses dont nous avons parlé cette semaine sont bien sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Nassim El Kabli. Ce jeudi, il s'intéresse à Bernard Manin, philosophe disparu l'année dernière, qui nous manque beaucoup, philosophe politique, auteur de des principes du gouvernement représentatif, un livre majeur. Et Nassim El Kabli, ce matin, essaye de cibler la manière de construire des désaccords avec Bernard Manin. Voici le fil philo.
Le fil philo.
Pour vous, la justice climatique est une priorité. Mais votre oncle, lui, considère qu'en matière d'écologie, on en fait trop. Vous n'arrivez pas à faire entendre vos idées et cela vous irrite. Avec le philosophe Bernard Manin, apprenez à mieux construire vos désaccords, c'est-à-dire à mieux écouter vos interlocuteurs et à mieux vous faire entendre. L'ensemble de l'œuvre de Bernard Manin, disparu le 1er novembre 2024, s'attache à montrer qu'en régime démocratique, la force et la valeur de la liberté d'expression tient à votre capacité à rendre votre parole audible et compréhensible, en particulier à celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. La liberté d'expression, c'est donc avant tout la liberté de pouvoir confronter ses idées. Mais vous le voyez, aujourd'hui, les désaccords sont aussi source de brutalité et de violence. Ceux qui usent de discours violents sont souvent ceux qui dénoncent le soi-disant politiquement correct ou encore la morale dite « bien-pensante » pour revendiquer une parole débridée et sans filtre, un verbe tranchant et musclé et pour rejeter celles et ceux qui ne pensent pas comme eux. Or, comme nous l'apprend Bernard Manin, l'expression de vos désaccords doit passer par l'expérience de la délibération, comme il le démontre dans son ouvrage « La délibération politique ». Délibérer, c'est exposer ses arguments à des interlocuteurs qui ne pensent pas spontanément comme vous et qui vont discuter vos arguments. Délibérer, c'est mieux construire ses désaccords. Mais c'est rarement comme cela que se passent les choses, notamment sur les réseaux sociaux. On s'enferme dans ses convictions, on menace celui qui ne pense pas comme nous. On discute sans discuter. Notez bien la différence entre les deux sens du verbe « discuter ». On discute avec quelqu'un qui, éventuellement, pense la même chose que nous, et on discute les opinions de quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Vous pouvez discuter avec quelqu'un avec pour projet de discuter ses opinions, mais vous pouvez aussi discuter avec des gens qui pensent comme vous. Mais ce type de discussion ne vous amène pas à nuancer vos convictions. Elle les renforce. Bref, comme le dit Bernard Manin, la discussion n'est pas toujours une bonne chose. Éclairons ce paradoxe par un exemple. Supposons un groupe de discussion où vous parlez de la taxation des grandes fortunes. Avant la discussion, vous aviez une position modérément favorable à cette taxation. Dans le feu de la discussion, il peut arriver que votre position se radicalise en même temps que les adversaires de cette taxation radicalisent leur opposition. Bref, la discussion n'a pas rapproché les points de vue, elle les a éloignés. C'est ce que Bernard Manin appelle la polarisation du groupe. C'est typiquement ce qui se produit sur les réseaux. Internet, par la logique des algorithmes, favorise les filtres, ces mécanismes par lesquels nous ne recevons que des informations qui vont dans le sens de nos croyances et de nos préjugés. Vous avez forcément raison, puisque les articles que vous lisez, les vidéos que vous regardez, vont dans votre sens. Or, la recherche de la vérité et du juste nécessite de retrouver le véritable sens de la discussion avec celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Alors, plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, cherchez plutôt les raisons qui pourraient vous convaincre que vous vous trompez en vous rendant attentif aux arguments de l'autre et en construisant mieux vos désaccords.
Merci Nassim El Kabli. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Anna... Pardon, j'ai oublié ton nom. Anna Holweg, pardonne-moi. Merci encore. Et Nicolas Berger a donné quelques grandes parties des sons également. Merci à tous deux. Merci à Nicolas Bonnet, à la technique et à toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.